Bien, donc nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à cette discussion autour de l'oralité, du conte, cette passation, cette transmission, des histoires, mais pas uniquement. Nous avons donc avec nous Chantal Robillard. Chantal, qui est une grande connaisseuse des livres, qui a énormément travaillé en jeunesse, avec La Joie par les livres, cette institution remarquable, qui a beaucoup travaillé dans ses œuvres sur la variation autour des contes, sur les jeux sur la langue, a aussi récolté des récits oraux, par exemple, dans les rencontres imaginaires en Aubrac, et qui, avec Agnès Échène, a travaillé en ajoutant des poèmes à ces récits qui donc sont passés à l'écrit grâce à ce travail. Dernièrement, dans Dimension Moscou, une anthologie qu'elle a dirigée avec une sacrée palanquée de grands noms, elle nous parle aussi de la littérature russe, hein, avec Baba Yaga, notre sorcière venue du froid. Voilà. Par rapport à ces jeux sur la langue, vous explorez aussi les contes pour y ajouter, pour les confronter à la littérature contemporaine en travaillant sur les styles, en y ajoutant donc des jeux sur les mots, sur la langue qui leur donnent une modernité ou en tout cas qui les mettent en regard aussi avec notre littérature d'aujourd'hui. Merci d'être venu. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre travail actuel et sur l'anthologie ou...
Oui, si on m'entend, ça marche, oui. Je travaille à la fois sur l'espace et le temps, vous me direz tous les auteurs, hein, plus ou moins. Mais donc là, par exemple, on parlait de Moscou, c'est une Moscou à travers les siècles, à travers même les genres littéraires, parce qu'il y a du fantastique, il y a du policier, il y a de l'érotique, il y a du conte, voilà. J'aime bien mélanger les genres, ne pas être cantonné à un seul genre, voir ce que ça donne, ce que nous disent les littératures orales ou écrites d'époque passée, ce qu'elles nous disent maintenant, ce que nous, auteurs actuels, nous pouvons dire dessus.
Merci. Alors nous accueillons aussi Pierre Dubois, auteur, scénariste, conteur, passionné de féerie et de contes, inventeur de l'elficologie, prolifique, ça vous va très bien. Nourri dans la forêt ardennaise par les légendes, vous avez rencontré Claude Seignolle qui vous a influencé et avec lui vous avez commencé à récolter en sillonnant la France pour ramasser des histoires. Vous aussi, vous aimez les mots, les vieux mots. Et vous avez des rituels aussi bien comme conteur que comme écrivain. Vous détournez aussi les contes anciens. Et on retrouve comme avec Chantal cette volonté de récolter les contes anciens, mais aussi de les confronter à notre monde d'aujourd'hui. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment
Là, j'ai entrepris un. Là, c'est les. On a avec Haussmann, donc l'illustrateur, on a fait un premier volume qui s'appelle l'Elphéméride. Et c'est vrai que autrefois, par exemple, même, on vivait réellement en fonction des saisons. Alors, la France était quand même rurale, et on vivait vraiment au fil des saisons. Les saisons étaient très marquées. Et même les enfants, dès qu'ils arrivaient à l'école, par exemple, les livres de lecture, c'était, bon, pour ma génération, c'était Jeannot et Jeannette, mais après, c'était, je ne sais plus qui, Valérie, les prénoms changeaient un petit peu suivant la mode, mais ce qui ne se démodait pas, c'était la nature. Et lorsqu'on commençait au mois d'octobre, eh bien, ce qu'on apprenait, le livre, les images, quand on ouvrait les cahiers, etc., c'était l'automne. On avait vraiment la notion de l'automne quand on partait le matin à l'école. C'était avec un petit, déjà c'était octobre, donc un petit frisson de froid, l'odeur des feuilles mortes. Et on arrivait et les livres de lecture nous parlaient de l'automne quelque part. Hein. C'est vraiment. Hein. Et donc on avait aussi observation et on devait observer l'automne, décrivait l'automne et tout ce qui s'y rapportait. On faisait même en bas des frises, des dessins sur les feuilles rouges d'érable ou des marrons, enfin des choses comme ça. On était vraiment liés à. Il y avait une forme d'harmonie. Et il est vrai que les anciens avaient un tas d'expressions, un tas d'histoires, un tas de légendes autour de ce qui nous environnait. Par exemple, l'automne, mois du brouillard, il y avait je ne sais pas combien d'histoires autour du brouillard, comment le couper, comment l'appeler. Les différentes figures du brouillard et des êtres du brouillard. Pour les châtaignes, je parlais des châtaignes, chaque fois qu'on mange une châtaigne, c'est une âme perdue qu'on sauve. Donc il y a les noix, il y a autant de légendes, d'histoires, et pour les animaux, pour les fleurs. Donc le fait de re-raconter toutes ces histoires, pour moi, c'est un petit peu renoué avec une harmonie qu'on a de plus en plus perdue. Hein. Souvent, il était une fois au temps où les bêtes parlaient. C'est pas qu'elles parlaient, les bêtes. Il y avait une espèce de langage commun. On pouvait encore se... Et là, il est vrai que notre civilisation, là, coupe complètement la marche du temps. Déjà, l'histoire, ça prend plus chronologiquement. On s'en fout des saisons, on tape un petit peu partout comme ça. La nature autour de nous, on l'a désacralisée, donc les saisons, on a l'impression qu'elles se barrent en. Voilà. En sucette, oui, ça revient au même, tu me dis. Oui, oui. tombez pas loin. Et c'est vrai que le gamin maintenant. Déjà, il observe plus la nature parce qu'il a son machin que tu m'as montré tout à l'heure là, ton truc là, le...
l'iPad.
Ouais, je suis désolé, je sais pas les noms de ces trucs là. Mais ben, donc et il est dessus et puis c'est tout, il voit plus rien et sur ses oreilles, il peut plus entendre le chant des oiseaux. Tiens, dire ah ben, maintenant on regarde au cinéma français quand il y a un film. Parce que les films sont parisiens, quoi. Sur la nature, si ça se passe en automne ou en hiver, on entend chanter le coucou, par exemple. Alors qu'il ne chante que 3 mois dans l'année, c'est tout. Et on dit la barbe d'or, je lui coupe la gorge. Donc dès que l'orge se met à pousser, on n'entend plus le coucou. Il y a une méconnaissance de tout ça, et on fait tout pour. Je vois, même dans les sentiments, je vois deux amoureux qui arrivent la fois dernière sur le quai de la gare. Enfin, on a des images des amoureux qui s'embrassent sur le seuil du train, quoi. Maintenant, schlack, il vaut mieux pas, mais il pourrait encore rester un petit peu, quoi. Et là, non, il y en a un qui est monté dans le train, il s'est assis, l'autre est sur le quai de la gare, puis tip, 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 ils sont appelés comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire le soir quand ils vont se retrouver? Ça va être ils vont faire une bataille navale, tu touches, couler, non, toucher. C'est aberrant, quoi. Et là aussi, je traversais en train, je suis bavard, après je m'arrête, hein, c'est promis, en train, la Bourgogne, il y avait des châteaux, il y avait des coteaux, c'était superbe. Les mecs, ils craquent, ils ferment les rideaux parce que ça fait des reflets sur leur écran. C'est aberrant, cette coupure. Donc je travaille en ce moment à ça, comme pour les fées, les lutins, parce qu'on les avait perdus. Là, c'est retrouver le légendaire, les contes, au jour le jour, le conte de la pluie. Les contes de la pluie, parce qu'il y en a 150. En ce moment, les genêts. Quand les ajoncs en Bretagne ou dans les Landes, quand les ajoncs se fanent, aussitôt les genêts reprennent la place. Donc la lande est toujours fleurie. Donc il y a une raison avec le diable et le bon Dieu. Enfin, il y a des histoires pour chaque chose. Donc le fait de re-raconter ces histoires-là aux enfants, c'est peut-être réaccoutumer une civilisation, quoi, à sa nature, à son paysage, et à le respecter. Bon, j'arrête là, je suis désolé.
Au contraire. Alors, Marie-Charlotte Delmas nous a aussi apporté énormément en termes de transmission par l'écrit de tout ce folklore, non pas au sens péjoratif du terme, puisque après avoir rencontré Claude Seignolle, avec qui elle a beaucoup travaillé, même publié des essais sur son travail, elle a créé Le Grand Légendaire de France, le grand livre des contes populaires, qui regroupe les contes glanés par d'autres cueilleurs, donc de nouveau cette collecte que chacun d'entre vous a pu faire, dans ses différentes versions aussi, avec les contes de Perrault dans tous leurs états. Donc montrer cette diversité et puis un travail non pas seulement sur le conte mais sur les rites, sur les superstitions, les sorts, tout ce qui se partage, tout ce qui se transmet par l'oral et que Marie-Charlotte Delmas nous redonne dans des ouvrages, dans des livres. Donc là je crois que vous travaillez sur un énorme travail qui va de nouveau pouvoir répondre à beaucoup de questions.
Voilà, c'est un travail de... Vous m'entendez ? Oui, c'est un travail de 20 ans de recherche, en fait. Il y a un âge où on se dit, maintenant, il faut publier ses travaux. Et donc, c'est sous forme de dictionnaire, c'est un livre qui regroupe toutes les croyances et superstitions populaires qui s'appellera, je crois... La superstition et magie au quotidien, parce que toutes les superstitions sont basées sur une magie, une relation entre les hommes et la nature, et on va y retrouver tout ce dont tu parles. Voilà, effectivement. Donc, c'est un gros pavé qui sortira chez Omnibus au printemps prochain, que j'ai retardé une nouvelle fois d'un an. Voilà, donc c'est une tarte d'avoir fini pour passer à autre chose, mais je pense que c'était important parce que je veux pas me faire gonfler les chevilles, mais c'est vrai que je ne lis que des inepties sur les superstitions et sur leur relation à l'Antiquité, etc., qui est rarement présente, évidemment, trop tardive quand on les recueille et tout ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire le point sur les grandes fêtes, sur les fleurs, les arbres, enfin, tout ce qui était sujet à superstition, à rites, effectivement, parce qu'il y a énormément de rites. Et oui, les animaux parlent à Noël. Voilà, donc c'était ce qu'on trouve souvent dans les contes, on le trouve aussi dans ce qu'on appelle les mémoras, qui sont des récits de mémoire, en fait des témoignages qui ont été donnés aux collecteurs du 19e siècle, parce que pour pouvoir... Pour pouvoir aujourd'hui disposer d'un corpus, il a fallu que l'oralité soit mise en boîte. Et pour qu'elle soit mise en boîte, il a fallu qu'au XIXe siècle, des hommes courageux, parce que le folklore n'existait pas encore, des hommes courageux aillent dans leur village, dans leur région, donc c'est toujours assez limité. Il y a des trous d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas eu partout. Recueillir à la fois les contes, mais aussi toutes les traditions, toutes les rites, toutes les prières, toutes les formules magiques, etc., qui étaient le quotidien des paysans. Et voilà, c'est tout. Et qu'on retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cadre de certaines branches du développement spirituel. Voilà, c'est... On revient vers la parole est importante, elle permet de fixer des choses, de dégager une magie, etc. Voilà, stop.
Je crois que donc pour vous trois, finalement, ça montre bien quelque chose d'important, c'est qu'en effet, jusqu'au 19e, la tradition orale était une évidence, hein, surtout dans un pays qui comprenait autant d'illettrés, qui ne pouvait pas profiter des livres. Notre 20e siècle a sacré l'écrit et a laissé de côté un petit peu cette tradition, alors que ce terme même de tradition, qui est vraiment dans l'idée de la transmission, dans l'idée de livrer, et depuis l'Antiquité, orale. Donc on vient de passer un siècle où l'écrit a pris la place de cette oralité. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Comment est-ce que... Alors justement, est-ce que c'est vrai ? On va peut-être commencer par là. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une perte de cette transmission, une diminution, une mise de côté ?
Alors moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a jamais eu autant de conteurs. Voilà, donc il y a ce besoin de l'oralité. Il n'a pas la même fonction. Effectivement, dans l'Antiquité, on a des aèdes, par exemple, en Grèce, qui vont chanter, parce qu'il ne faut pas oublier que la première oralité, elle est chantée. Elle est chantée et elle est rimée. Elle est rimée parce que ça permet de se rappeler. Et pas rimer n'importe comment. D'ailleurs, je vous recommande, si vous voulez acheter l'Iliade, le travail exceptionnel de Philippe Brunet, qui a passé sa carrière, enfin 20 ans de sa carrière, il est jeune Philippe, mais a travaillé sur le fameux, je ne sais plus comment il s'appelle, hexamètre des six, ce vers grec composé de syllabes, de machins, des brèves, des longues, et qui a redonné une traduction de l'Iliade avec cette versification, et qu'il la chante d'ailleurs. Moi j'ai assisté, c'est un copain, donc j'ai assisté, voilà, il la rechante comme on pouvait, comme on imagine, parce qu'on n'a pas d'enregistrement bien entendu, comme on imagine qu'elle était chantée. Et puis au Moyen-Âge c'est pareil, Marie de France qui publie en 1160 ses fameux lais, les lais de Marie de France, qui est en Bretagne, dans la grande, pas la petite Bretagne française, elle dit dans son introduction qu'en fait, elle a décidé de faire œuvre originale, ce qui est vrai, en ne réécrivant pas les fables latines, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de l'époque qui vont nous redonner Ovid, qui vont nous redonner Virgile, etc. Et qu'elle décide, elle, de mettre par écrit, pour qu'on ne les oublie pas, donc il y a bien une histoire de transmission, les hauts faits héroïques qu'elle a entendus chanter Lélé dans sa jeunesse. Donc, elle dit, voilà, on va les oublier, et il ne faut pas qu'on les oublie, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ces histoires. Et elle nous raconte le bisclavré, le loup-garou, etc., etc. Et c'est vraiment une histoire de, voilà, les trouvères et les troubadours, troubadours, sud-nord. Pareil, ils chantaient. Alors, qu'est-ce qu'on chante? L'oralité, au départ, elle raconte des hauts faits. Les hauts faits des dieux et les hauts faits des héros. Voilà, c'est fait pour ça. On transmet de l'histoire avant de transmettre des histoires. Après, s'il y a personne à un moment donné pour écrire ou pour noter l'Iliade, on ne l'a plus. On ne sait même pas qui est Homère, hein, même pas s'il existe. Donc, on ne l'a plus. Mais je pense que, comme le disait Pierre, aujourd'hui, il y a beaucoup de conteurs qui repartent retrouver des histoires, ces histoires du 19e ou des contes de sagesse de différents pays, etc., et qui transmettent cette mémoire, comme tu vas transmettre la mémoire de la nature et le rapport entre l'homme et la nature, qui est aussi très à la mode en ce moment. Donc du coup, je pense qu'on y revient. Voilà.
Chantal, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une diminution, une perte? Pourquoi est-ce que vous avez collecté?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de perte. Et même, non seulement j'abonde dans le sens de Marie-Charlotte, mais je dirais qu'on crée ou on recrée, je ne sais pas, des mythes modernes et des histoires modernes, des contes et des... Comment dire? Dans la réalité qui s'est passée il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il y a des choses qui ont été des aventures, des épopées, qu'on a un peu oubliées, et nous, écrivains, ça nous intéresse de les faire revivre. Et les faire revivre notamment, justement, par la poésie, par le conte oral, mais poétique. Moi, j'ai travaillé l'an dernier pour les rencontres d'Aubrac sur l'aéropostale, l'aventure de l'aéropostale. Alors, ça a déjà été décrit, il y a des biographies, il y a des gens qui racontent la mort de Mermoz, enfin, etc., etc. Saint-Exupéry, je n'insiste pas. Il m'a semblé intéressant que par l'oral, c'est-à-dire par un texte dit, écrit évidemment, mais à dire, et avec une forme moderne qui n'a encore jamais été utilisée, qu'on puisse rendre vivante l'aventure de l'aéropostale. Ça passe par l'oral, alors au sens oral par rapport à l'écrit. Mais il faut d'abord que ça ait été écrit. Donc j'ai écrit une onzine sur l'aéropostale qui s'appelle « Fondre la nuit étoilée », qu'on peut entendre sur YouTube, voir même, Et ça me semble intéressant, comme ça, de retrouver certains mythes. Alors, tout le monde n'aime pas forcément l'aviation des années 1920. N'empêche que, en moins de 100 ans, on est quand même monté dans la Lune et au-delà, en très peu de temps, alors qu'au départ, c'était des vieux coucous. Voilà, Clément Ader, je ne vous raconte pas l'histoire, vous connaissez tous. Mais on oublie un peu vite certaines choses. Donc, c'est à nous, les écrivains, de reprendre, si on en a envie évidemment, certains moments comme ça, qui ont pu être mythiques, qui ont lancé des choses et qui après sont un peu oubliées. Maintenant, à l'heure des mails, qui sait que le courrier autrefois, c'est des gars qui risquaient leur vie, qui traversaient d'un continent à l'autre dans des vieux coucous ficelés n'importe comment pour apporter votre lettre d'amour, votre lettre de rupture à votre ami de Colombie, du Brésil ou du Sahara, hein, voilà, et vice-versa. Donc voilà, il y a ce côté, on est tellement dans une autre dimension maintenant qu'on oublie un peu tout ça. Et je trouve que ce n'est pas inintéressant de le faire ressurgir. Donc c'est la même chose que ce que disait Pierre sur les fées, les fontaines, les superstitions, les traditions d'une certaine époque rurale. On a eu aussi une époque moderne, j'aime pas le mot, mais voilà, qui découvrait autre chose. Et on a un peu oublié, parce qu'entre Icare et l'aéropostale, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives. Enfin, il y a peut-être eu des tentatives, mais il n'y a pas eu beaucoup de réalisations, en tout cas. Et Icare s'est cassé la figure, comme on le sait tous. Donc voilà, à part les ballons montgolfiers, mais on sait vite que ça n'allait pas très très loin, même si c'est très joli dans les airs. Il n'y a pas eu grand-chose avant ces aventures, tout à coup, d'aviation. C'est quand même à partir de là qu'on a Hubble, la découverte des galaxies, la science-fiction, etc.
Merci. Pierre, du coup, bon, vous nous parliez donc de cette importance pour vous de la transmission. Alors, à une heure où les jeunes gens se coupent de leur monde, et donc vous pensez que c'est nécessaire parce que il y en a pas assez, ou
non? Je pense qu'effectivement, comme vous disiez d'ailleurs, c'est que grâce à déjà eux, parce que c'est vrai que pendant un bout de temps, ça manquait, l'imaginaire, le rêve, était un peu banni de la littérature pour jeunes, par exemple. Oui, vraiment, on faisait du social, c'était Jean-Paul Épouse Jean-Louis, enfin maintenant c'est plus une légende, là, mais le grand-père meurt, mes parents divorcent, c'était vachement gay. Mon premier vol de mobylette, c'était une littérature quand même, comme l'appel pour la blanche, le Brice, la littérature trois pièces cuisine, quoi. C'est un peu, l'imaginaire ne passe plus, le rêve ne passe plus. Et là, je pense que les enfants ont réagi de façon un peu anarchique, à travers les mangas, à travers les jeux de rôle, à travers un tas de retrouver le chemin de du rêve, le chemin de la féerie. Ils ont été chercher, et ça a fait réveiller tout le monde. Je pense que le dessin animé, donc c'était pas toujours très beau, mais il y a eu donc des artistes, des auteurs, des écrivains qui ont pris la succession. Donc, pour qui ça a toujours été un besoin de le faire, mais qu'on n'écoutait pas spécialement. Mais là, il s'est passé quelque chose d'un peu mystérieux entre une demande lointaine qu'on ne discernait pas vraiment bien et des auteurs qui avaient été des enfants et qui connaissaient vraiment le et qui, eux, ont dit bah non, on y retourne. On veut à nouveau des chevaliers, on veut à nouveau des écoles des sorciers, on veut le. Et c'est pour ça que ça s'est passé, je pense, sans heurts. Là, il y a eu une espèce de même les éditeurs l'ont compris. C'est assez extraordinaire.
Et par rapport à ce retour de l'imaginaire dans l'écrit, mais l'oralité, de fait, où est-ce qu'elle se place par rapport à ces jeunes gens, par exemple, qui retrouvent avec plaisir cet imaginaire? Alors, comment est-ce qu'on va leur transmettre oralement ce qui existait déjà, en fait, et qu'eux découvrent comme si c'était nouveau?
C'est vrai que dans les écoles, maintenant, il y a l'heure du conte. Alors, dans les bibliothèques, alors c'est pas toujours génial dans la mesure où ce sont pas vraiment des conteurs, mais malgré tout ils racontent des histoires, ils lisent à des enfants, moi j'y vais assez souvent, et c'est ça assez qui est réjouissant, c'est de voir ces enfants qui, même si on réactualise le petit chaperon rouge ou des choses comme ça, la base est toujours là, et c'est les mêmes choses qui leur font peur, c'est les mêmes choses qui les excitent, c'est les mêmes choses qui les réjouissent. La magie dont tu parlais, tu sais, la magie est toujours là. Et là, justement, c'est assez amusant parce que avec aussi le brassage des ethnies, je vais quelquefois dans des j'aime bien raconter cette histoire-là parce que c'est, je trouve ça étonnant. Je vais donc du côté de Maubeuge et là, il y a beaucoup de petits Arabes. Et j'en parlais de Lancelot, de la Dame Blanche, de ceci, de cela. Et je dis, mais vous avez Aïcha Kandisha? Ah, tu connais Aïcha Kandisha? Je dis, eh bien, attention, si tu l'appelles trois fois, elle arrive. Ah oui, et là, il me raconte une histoire extraordinaire. C'est que Aïcha Kandisha, c'est un peu notre Dame Blanche, c'est un peu la Banshee. On la voit en général soit au bord du Drout, mais il y a souvent un fossé, de l'eau, aussi elle crie, elle appelle, hein, la Banshee crie, appelle, enfin, et c'est la nuit qu'elle apparaît, et dans un lieu désert. Hein. Donc cette Dame Blanche va chez nous prendre différents traits suivant les époques, même il y a la Vierge. La Vierge, quoi, qui est aussi une Dame Blanche, quoi, soit. Et là, il me raconte donc, théoriquement, ils n'ont plus de légende, ils n'ont plus rien amené. Il me raconte que Aïcha Kandisha, cette Dame Blanche, quoi, cette femme blanche, apparaît sur le parking d'Auchan à minuit.
C'est ça aussi sur les faits.
Ouais, tu vois, mais voilà. Elle a...
oui, oui.
Et alors. Ah oui, c'est incroyable. Donc, elle apparaît à minuit sur Auchan. Et là, la Dame Blanche en Bretagne, par exemple, en général, elle est associée au char de la mort, la caricalonancou, la charrette de la mort. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle pousse un caddie. Alors, la charrette de la mort. Et d'où elle vient? Ben, elle vient de l'égout. Ah bah oui, encore le point d'eau. Enfin, alors je lui dis, elle est belle ou elle est laide? Ben, elle est laide, monsieur. Ben, pourquoi elle est laide? Mais parce que l'eau, elle est polluée, c'est évident. Ben, pourquoi je pense... Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle crie. Alors, c'est quand même assez incroyable, cette histoire. Alors, pour aller un peu plus loin, humoristiquement, donc, un des petits Arabes, j'ai fait jouer le rôle de Gauvin chez Lancelot, parce qu'il était un peu toujours énervé, plus que les autres, mais je vais le calmer en lui donnant le rôle principal. Comme ça, il va faire la loi, comme ça. Et je suis à Auchan, je fais mes courses, et j'entends « Monsieur, monsieur !» Et je reconnais mes deux petits Arabes là, qui sont là. Et là, c'est assez rigolo parce qu'il y a... Il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Moi, je dis « Je fais mes courses. » »« Vous faites vos courses à Auchan ?» Pensez certainement que, que c'était des griffons qui me les amenaient ou je ne sais pas quoi. Et ils me disent « Oh, il faut venir voir ma maman, elle est là-bas, ma mère, elle est là-bas avec ma sœur. » Je les prends comme ça par les épaules, je vais voir la mère qui se retourne, qui me voit. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont dit. Et là, mais si, ils ont fait les trucs, donc j'ai fait un petit peu mariner pendant un petit bout de temps. Et ça m'étonnerait, ils ne m'ont pas quitté. Bon, mais donc, tu vois, et ça, dès que tu leur racontes des histoires, ils t'en racontent eux aussi. Et je pense que l'oralité, c'est ça qui est de toute façon, ouais, c'est le premier moyen pour s'exprimer, pour échanger, pour le. Et c'est aujourd'hui, par exemple, ce matin, moi qui parle très mal l'anglais, mon voisin était anglais, on s'est raconté des histoires. Sans trop bien comprendre, mais ça faisait quelque chose, quoi. Ça faisait un sabir marrant, et l'histoire passait, l'émotion passait, tu vois. Et je pense que quand même, quoi qu'il se passe avec les iPhones ou de comme ça, ou le téléphone, etc., malgré tout, la voix, on parle dedans, on s'exprime de la même manière. Donc si, je pense que à cet écho lointain, il y a eu une réponse et qui ont donné beaucoup d'écho et d'échanges, me semble-t-il, hein, en ce moment, quoi.
Ouais, justement, par rapport à cette transmission, on peut se demander pourquoi continuer, puisque traditionnellement, dans l'Antiquité, ce qui se racontait était lié au mythe, au religieux. Il y avait vraiment une fonction sociale très forte. Aujourd'hui, le fait qu'on se soit rendu compte à partir du 18e, du 19e, que les contes n'étaient pas spécifiques à une région, mais qu'en fait, ces contes se transformer, se retrouver de lieu en lieu sur l'ensemble du continent et même au-delà. Est-ce que ça, c'est pas un moyen justement pour vous, là avec Baba Yaga ou avec ces différentes versions, de redonner une place au conte puisqu'il n'a plus cette fonction religieuse?
Alors, je voulais juste dire, pardon, je vais répondre à ta question. J'ai noté quelques petits trucs là que je voulais pas oublier. D'abord, le conte, il a toujours existé dans les familles. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, quand Perrault publie les contes de la Merlois, qui sont des contes de nourrices, sont les contes que les nourrices ou les mères ou les grands-mères racontent aux enfants. Donc, quand deux siècles ou trois siècles, 17, on voit plutôt Noël Dufay raconte ce qui se passe dans ses propos rustiques à la campagne, il explique qu'on raconte des histoires à la veillée, voilà. On ne fait pas... Quand on se retrouve... Alors, la veillée, évidemment, est un moment extrêmement important. La veillée, ce n'est pas une soirée entre potes où on va écouter des histoires. La veillée, c'est qu'on se rassemble quand la nuit tombe, tôt, pour économiser le bois et la bougie. Voilà. Et donc, on travaille ensemble, on file la laine, on écosse on ébogue les châtaignes, machin, et on chante et on raconte des blagues, souvent des contes, les contes de Trapel de Noël Dufay, 15e. Voilà. On raconte, il y en a un qui sait mieux raconter que les autres et qui se lance et qui raconte des histoires. Donc, à partir du moment où les mères et les grands-mères n'ont plus forcément assuré ce conte et l'arrivée de la littérature jeunesse très, très faible à partir de 1810, et un peu plus forte sur la fin du 19e et puis avec un vrai renouveau dans les années 1970, cette littérature jeunesse fait qu'après, on lisait les histoires aux enfants. Voilà, on lit les histoires aux enfants. Ce qui est totalement différent. Raconter et lire, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite sont arrivés les jeux de rôle. Alors moi, je ne suis pas passéiste du tout. Je trouve que les jeux de rôle ont apporté une richesse à l'oralité absolument formidable parce qu'elle est interactive. C'est plus uniquement celui qui raconte et puis les autres qui écoutent, c'est que tout d'un coup on va écrire, et je vais y revenir, qu'est-ce que l'oralité sinon une écriture en mouvement, va écrire sa propre histoire, et on a des surprises extraordinaires avec des enfants qui ne sont pas brillants des fois dans différentes matières, et qui tout d'un coup vont déployer leur propre imaginaire, nourri évidemment par ce qu'ils entendent à la maison, des fois d'histoires de tradition, ce qu'ils lisent, ce qu'ils ont lu dans les bouquins, ou pas, mais généralement ils se documentent pour savoir ce que c'est un griffon, ce que c'est un dragon, ce que c'est, voilà. Et ils vont raconter leur propre histoire et partir, et donc tout d'un coup on en fait des acteurs, on en fait des conteurs, et aujourd'hui c'est pour ça que je dis que le conte et le racontage d'histoire il a jamais été aussi important. Non seulement il a jamais été aussi important, mais il a jamais été aussi qualitatif, puisqu'aujourd'hui à travers le jeu de rôle on est acteur et on écrit sa propre histoire. Donc ça, je pense que c'était important de le dire. Autre chose, aujourd'hui dans les musées, moi j'ai un ami qui est venu, je crois j'ai fait venir il y a 2 ans ici, Ludovic Soliman, qui est conteur, il compte dans les musées, ça se fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire lui il est au musée Branly, voilà, on réunit dans la salle des tapis tous les enfants qui viennent visiter le musée et il leur raconte des contes. Parallèlement, il travaille sur les graines de mémoire, c'est-à-dire qu'il va dans les cités, il va dans les usines, il va dans tous les lieux de métier, comme ça, juste à l'écoute des gens, et des gens qui lui racontent une histoire, non pas la grande histoire de l'aviation, etc., qui est aussi importante, mais ces petites histoires qui font notre histoire. Et voilà, et le fraiseur qui raconte comment c'était, etc. Et de ça, il fait des histoires et des spectacles qu'il appelle ses graines de mémoire, où il pioche dans ses graines de mémoire. Il a publié aussi là-dessus. Et c'est vraiment formidable. Et ça, ce sont les mémoras. C'est-à-dire que ça, ce sont les créateurs, les vrais créateurs de contes qui se servent de la matière d'aujourd'hui, la matière d'aujourd'hui ou d'hier, pour encore que les ouvriers sont toujours présents, ou les gens dans les cités, de toute culture. Voilà. Et qui lui rapporte, il travaille en Seine-Saint-Denis, où il habite, et qui lui rapporte énormément d'histoires, et ces petites graines de mémoire qui sont ces mémoras que les collecteurs ont eux-mêmes trouvées. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, pour répondre donc à ta question, c'est qu'effectivement... On a toujours eu, et on a encore plusieurs formes d'oralité. On a la lecture à haute voix. Moi, j'en fais une cet après-midi. Je vous invite, Claude Seignolle. Toi, tu vas faire du conte. Il y a du théâtre, etc. Mais toutes ces formes d'oralité ne sont ni de même nature et n'ont pas les mêmes fonctions. Voilà. C'est-à-dire que dans le théâtre, par exemple, on va apprendre un texte écrit. Il y a souvent une interaction, il y a souvent plusieurs personnages, la voix n'est pas placée pareil. Voilà, donc le rapport au public, qui est un rapport, la scène et les gens, est totalement différent. Il induit donc des rapports différents, des émotions différentes, comme le cinéma et la télévision, par exemple. Bon. Ensuite, la lecture à haute voix. La lecture à haute voix, elle est extrêmement importante pour tout ce qui est conte littéraire. Si vous voulez choisir Andersen, qui est un auteur de contes littéraires pour adultes, parce qu'il détestait qu'on dise que les enfants s'emparent de son boulot, il faut le lire, il ne faut pas le raconter. Si je choisis de lire les histoires de Claude Seignolle, c'est parce que les raconter serait se priver de sa langue. Et voilà, Andersen, ça passe par des traducteurs, mais on a de très bonnes traductions. Et du coup, il ne faut pas se priver de la langue d'un auteur. Par contre... si on veut raconter, moi je dis toujours raconter, c'est se lancer dans le vide. Hein? C'est-à-dire qu'une histoire qu'on raconte, on ne l'écrit pas. Une histoire qu'on raconte, on la lit une fois, deux fois, trois fois, et on la visualise. C'est-à-dire qu'on la voit devant soi. Et quand on la raconte, on ne fait que rentrer dans son propre film, auquel on va rajouter des choses. Donc c'est une vraie écriture en mouvement. D'une séance, je parle sous ton couvert, mais d'une séance à l'autre, les mots vont être différents, les sensations vont être différentes parce que je suis à Épinal et que je ne suis pas à Paris ou dans le Nord, etc. C'est-à-dire que le conteur est vraiment un écrivain en mouvement qui donne ses sensations, qui donne ses images, et le rapport entre le conteur et le public dans cette visualisation dans laquelle il emmène tout le monde... c'est un rapport émotionnel, c'est-à-dire que ça passe par l'émotion, par des émotions, par l'esthétique au sens propre de ce mot grec, émotion. Voilà, et on est vraiment dans cette oralité du conte, dans une écriture en mouvement. Après, bon, le conte littéraire, machin, blablabla, il y a tout ça, mais là, puisqu'il est question d'oralité, on a différentes oralités et celle-là est une oralité vraiment riche. Alors après qu'on choisisse de prendre des contes anciens, etc., il faut les détourner. Quand je dis les détourner, c'est qu'il faut en faire ce qu'on veut. Voilà, me fait Chantal, il faut en faire ce qu'on veut. Parce que vouloir conserver, bon moi je conserve et je mets là où ça a été collecté, tout ça. Mais après c'est fait pour être, le conteur c'est comme un tailleur qui prend une pièce de tissu et qui va la retailler, la recoudre, machin, pour faire un nouvel habit avec ses propres émotions, ses propres... Et c'est ce que raconte Pierre, voilà, c'est la sorcière qui va sortir. Moi aussi j'ai eu ça dans un lycée professionnel avec les gamins sur mon livre sur les fées, là, sur la trace des fées, et donc où je leur posais la question, et pareil, il y en a un qui m'a dit, ah ouais, non mais elle est sur le parking, machin, enfin, c'était extrêmement bizarre. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des légendes urbaines, comme on dit, il y en a toujours eu, hein, des légendes urbaines au 19e siècle, déjà Paul Sébillot en publié. Donc des légendes urbaines, toujours sur les mêmes fonds, sur les mêmes bases, sur les mêmes schémas de mythes, parce qu'en fait, on est incapable aujourd'hui d'inventer des mythes. Le dernier mythe qui aurait été inventé, c'est le mythe de Robinson Crusoe, c'est-à-dire le mythe de l'île déserte, qui est un mythe moderne, qui est le premier des grands mythes. Après, on est toujours sur des schémas mythiques très, très, très anciens, qui correspondent peut-être aux archétypes de Jung, qui correspondent peut-être à notre psyché profonde, qui correspondent, j'en sais rien. Je ne suis pas assez férue en psychologie, mais voilà, ce sont toujours les mêmes. Bon, j'arrête parce que sinon
je reviens vers vous, Chantal. Je reprends cette question un petit peu. Vous nous parliez tout à l'heure d'épopée. Donc l'épopée orale avait cette fonction sociale très forte et politique aussi. Aujourd'hui, pourquoi on compte quelle fonction l'oralité a dans notre société?
Alors, c'est pareil, je ne vais pas faire de la psychanalyse ici, je ne serai pas suffisamment qualifiée, mais je pense qu'il y a un côté cathartique, il y a un côté, voilà, raconter nos peurs, c'est déjà les dépasser un petit peu, voilà, en tout cas essayer. Et puis, il y aura toujours des loups-garous qui feront peur aux enfants, voilà, même si... Le loup-garou, hein, voilà. Alors, je ne vais pas vous ressortir parce que j'ai déjà expliqué l'an dernier, ici même, mon rapport très particulier à la bête du Gévaudan. Mais voilà, ça reste dans les familles, ça reste dans les mémoires, comme ça, certaines aventures qui ont réellement existé, qui ont été transformées, qui ont été remodelées, etc. Mais ça évoque toujours chez quelqu'un qui ne connaît pas voilà, une émotion, une peur, une angoisse, une envie, dans le loup du petit chaperon rouge qui veut dévorer la petite fille, on peut trouver des tas de choses à dire sur cette histoire, mais il y a aussi de la réalité qui a été vraie à certaines époques où les gens crevaient de faim, où donc les loups aussi crevaient de faim et avaient envie de manger de la chair fraîche, enfin, etc. Sur les ogres, on va pas revenir dessus non plus, mais on se rend compte maintenant qu'avec quand même Internet et d'autres systèmes de communication, on sait plus de choses qui se passent à gauche et à droite. Disons, la rubrique faits divers et chiens écrasés des journaux, maintenant, elle est constamment en premier plan sur le net. Donc on se rend compte qu'il y a encore des cannibales. Heureusement, pas beaucoup, mais enfin... Bon, voilà. Eh bien, les ogres, c'était ça. Hein. Quand on les voit dans le petit poussé, nous, actuellement, ça nous paraît un peu ancien, machin. En réalité, ça a toujours un peu existé. Et on a aussi des exemples de... de gens rescapés d'un avion qui ont boulotté les corps des copains morts, enfin des copains ou des voisins d'avion décédés. Vous trouvez ça d'ailleurs dans le dernier livre de Fred Vargas, dans un polar, je ne sais plus comment il s'appelle, Temps glaciaire, je crois. Hein,
oui, Temps glaciaire.
Voilà, il y a de la dévoration, il y a aussi un troll. Hein, parce que voilà, on retrouve des trolls modernes. Il y a des pays, l'Islande est quand même un pays très particulier, où, alors je ne suis pas Régis Boyer, je ne pourrais pas être aussi savante que lui là-dessus, mais c'est le seul pays à ma connaissance où les routes qui vont tout droit, parce que c'est des paysages, il n'y a pas d'arbres, donc on va tout droit, sauf les montagnes qu'on contourne, tout à coup on fait un détour, tout droit, il y a un petit, c'est pas juste une aire de parking, c'est qu'il y a l'habitat d'un troll qu'il ne faut pas déranger. Donc la route contourne. Encore maintenant, ça se fait. Donc voilà, on est là dans le, pas forcément uniquement l'oralité, mais dans la réalité de traditions anciennes, de croyances, etc.
Je reviens vers vous, Pierre. Est-ce que je me permets de vous citer, on tourne autour de ça, de cette fonction de l'oralité. Vous aviez dit, le conte de fées n'est pas fait pour endormir les enfants, mais au contraire pour les réveiller, les préparer à ce qu'ils vont affronter dans leur vie et pour réveiller les adultes. Ça revient à ce que vous nous disiez au début. Est-ce que pour vous, c'est une fonction essentielle, la seule ou
Oui, c'est essentiel, mais pour revenir justement, parce que comme tu parlais de la bête du Gévaudan, ça m'a fait tilt aussi. C'est que j'étais avec c'est la fameuse aussi phrase dans le western de John Ford, Liberty Valance, hein, lorsque la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende, mais on l'imprime là. On l'imprime une fois pour tout dans notre émotionnel, dans ce mythe, et ça finit par être vrai. Et là, tu parlais du Gévaudan, justement avec Stéphane Bourgoin, donc un copain, qui lui est un spécialiste des serial killers, me disait que certainement la bête du Gévaudan est un serial killer. C'est ça. Voilà. Et donc, comme avec Jack l'Éventreur. D'un côté, on veut connaître l'identité de Jack l'Éventreur, mais dès que quelqu'un avance une théorie, tout de suite, il y en a d'autres qui le ramènent au mythe, qui ne veulent pas de cette réalité-là, ne veulent pas de nom, comme les enfants qui disent « Maman, pourquoi le ciel est bleu ?» Ils ne demandent pas, ils ne demandent pas à leur mère un cours de physique ou de je ne sais quoi sur le ciel. Mais surtout qu'on leur raconte une belle histoire, que c'est le manteau de je ne sais pas d'une fée qui l'a étendue, et puis que les nuages, ce sont les quand elle secoue, hein, c'est Marie Aublé, hein, qui secoue ses édredons, et donc c'est le ou la neige ou les nuages, etc. On a besoin de rêver, on a besoin de ces rêves, d'aller au-delà de la réalité, au-delà. C'est vital, je pense vraiment. L'enfant, même lorsqu'il se raconte des histoires, il a peur du noir, mais il se raconte pourquoi il a peur du noir, c'est qu'il y a des êtres dans l'obscurité. Et puis, pour le défendre, il y en aura d'autres, mais des gentils. Cette fois, il raconte des histoires à son nounours, il raconte des histoires à sa poupée, il se raconte déjà tout de suite des histoires, et il plonge, sans le savoir, aussi dans les grands mythes. Et ils vont peut-être... regarde, tu parlais aussi de des premiers coucous. Et aussi Cyrano de Bergerac a rêvé d'un moyen d'aller dans la Lune avec des voilà, il n'avait pas réussi. Il avait le nez trop lourd. Non, mais c'est l'histoire de la rosée qui, en s'évaporant, c'est magnifique comme idée. Hein, c'est magnifique. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce besoin de légende, de besoin de magie, de la pensée magique, comme les aussi dont tu parlais, les superstitions qui met en côté d'abord magique. Hein, tu bipes.
Non, c'est pas moi.
Si tu bipes. Non, peut-être pas. Non. Mais c'est pas moi non plus.
C'est pas le mien non plus.
C'est un cas de poltergeist.
C'est
ah si.
Je comprends pas pourquoi je bipe. Temps écoulé.
Temps écoulé. Donc il nous reste, bah, il nous reste
tout
plus.
Tout à fait. On a encore un tout petit peu de temps.
Ah voilà, c'est le. Le temps est écoulé.
C'était les Paoni, Smircea Eliade qui en parle, qui disait qu'il différenciait les histoires vraies, donc ces contes étiologiques qui racontent comment le monde s'est fait, et les histoires fausses, les histoires de coyotes qui étaient pour amuser.
Il y a tout un éventail d'histoires. Il y a les histoires à faire peur, les histoires à faire rire, les histoires pour chaque. Et les enfants aussi, d'ailleurs, le savent, les histoires qui... c'est un petit peu le pan, t'es mort, et puis papa, ils savent les histoires qui sont vraies, pas vraies, jusqu'au bout où ils vont aller. Ils ont leur propre loi, le propre... c'est ça qui est étonnant, c'est que l'histoire te permet tout. L'imaginaire permet tout. Là, au-delà de la machine, au-delà c'est d'abord un rêve de Cyrano de Bergerac ou de Icare et tout, de voler. Et puis on met des ailes aux anges et même aux fées aussi. Elles les avaient pas au départ, elles en avaient pas besoin. Elles en avaient pas besoin. On savait qu'elles pouvaient voler. Il a fallu expliquer justement le fait qu'elles puissent aller d'un endroit à l'autre par leurs ailes. Mais c'est une image, c'est le justement donner bien une réalité pour expliquer un rêve et quelque chose de magique, d'essayer d'expliquer en leur mettant des ailes. C'est assez amusant, comme la taille des fées qui vont devenir toutes petites au moment de l'époque élisabéthaine, parce qu'on ne les voit pas, ou alors elles se mettent justifié, dans les fleurs, elles vivent dans les fleurs. Ah bah, elles doivent être vachement petites pour vivre dans les fleurs. Et, évidemment, c'était dans les fleurs, dans la fleur. Mais les illustrateurs l'ont pris au premier degré avec des petites... Là, elles se sont rapetissées, les fées, les elfes.
Je vois Marie-Charlotte qui a réagi sur l'idée d'amuser. Parce que
des petites choses au fur et à mesure pour pas oublier, qui me semble...
Il nous reste peu de temps parce que c'est tellement vaste qu'on aurait pu y passer beaucoup plus de temps. Mais je pense qu'il y a vraiment cette question essentielle. On réduit beaucoup l'oralité, le conte à un amusement. Et pourtant, je pense que vous allez être d'accord avec moi, quand on va en Brocéliande n'existe que par ses conteurs finalement. Sinon, on est dans la forêt de Pimpon.
Par ses livres au départ, là, pour le coup. C'est la première littérature. Alors après qu'il y ait eu, etc. Non. Ce que je voulais dire, pour rebondir là sur... Je mets des petits trucs, hein, c'est dans le désordre, hein, pardon. Hein. Mais c'est qu'effectivement, il y a une formulette toujours propre aux contes traditionnels. Et on a trouvé, moi, dans le bouquin que j'ai fait sur les contes avant Perrault, et chaque conte de Perrault, puis ce qu'il y avait eu avant, ce qu'il y avait eu après, on reconnaît l'antiquité, entre guillemets. Non pas qu'elle remonte au monde antique, mais on reconnaît l'ancienneté, je veux dire, d'un conte à sa formulette. Et il y a souvent la formulette de début et de fin qui fonctionne comme un protocole de lecture. Il était une fois. Voilà, on sort du monde réel pour passer dans un autre monde. Cet autre monde peut être une métaphore de notre monde à nous, comme la fantaisie ou certains bons ouvrages de fantaisie nous permettent de regarder l'aujourd'hui à travers une histoire d'hier et nous parle d'aujourd'hui en nous parlant de lutins, de pays imaginaires. Et il y a la formulette de fin. Et cric-crac, machin, qui existe dans beaucoup de pays et beaucoup de traditions. Voilà. On est rentré dans l'histoire, on ferme de l'histoire. Moi, je fais du kemi-shibai traditionnel, japonais, et on a des petits butai, des petits théâtres, et c'est la même chose. Et on ouvre les portes du théâtre, l'histoire va commencer, et on ferme les portes du théâtre, l'histoire est finie. Voilà. Et l'histoire, elle, même si elle fait peur, voilà, c'est terminé. Pareil, tu parlais des pourquoi. On a énormément dans ce qu'ont relevé les folkloristes de ces petites histoires de pourquoi. Pourquoi tel oiseau à la queue jaune, pourquoi le soleil machin, pourquoi, avec des explications qui sont des fois drôles, des fois poétiques, etc. Voilà les pourquoi. Et l'autre chose, justement, là, qui répond peut-être plus à ta question, l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte, je ne l'avais pas constaté tout de suite, mais c'est vrai que le travail sur ce dictionnaire, la forme du dictionnaire, m'a permis de mettre en relief des liens que je n'aurais pas forcément fait, d'approfondir un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que ce soit des faits folkloriques, des légendes, des contes, etc., bon... À partir du moment où on ne s'en occupe plus, à partir du moment où on n'y croit plus, la dernière épiphanie de tous ces faits, c'est le folklore enfantin. C'est que, par exemple, couper l'arc-en-ciel, qu'on retrouve partout, l'arc-en-ciel porte malheur, il faut le couper, on le coupe en crachant par terre, on le conjure, etc. Vraisemblablement, je ne sais pas, au Moyen-Âge, on n'a pas suffisamment de textes, hein, mais au XVIIe siècle, on en a avec le traité des superstitions de Thiers qui rapporte un tas de choses. C'était une superstition, c'était une croyance des adultes. Voilà, la peur de l'arc-en-ciel, la peur de ce pont des As dans la mythologie nordique, ça, la peur, Bifrost, bon. Mais là, quand les folkloristes au XIXe siècle relèvent cette superstition et d'autres, elle est dans le folklore enfantin. Ce sont les enfants qui jurent en faisant des croix, ce sont les enfants qui font ceci. Ce qui m'amène directement au croque-mitaine, sur lequel j'espère publier après mon dictionnaire, parce que j'en ai relevé énormément. Et pareil, je me suis rendu compte que la fonction du croque-mitaine, c'est, enfin, même la nature, on va dire, du croque-mitaine, c'est on ne croit plus à tel être surnaturel, on n'y croit plus, mais on s'en souvient. Le fait qu'on s'en souvienne va permettre de le transformer en croque-mitaine qui va être sa dernière maison, on va dire. Il va changer de famille. Et du coup, on peut faire peur aux enfants. Au fur et à mesure qu'on perd la mémoire de ces êtres surnaturels, ça se réduit. Et ça se réduit tellement qu'aujourd'hui, on a peur du loup, point barre. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a plus... voilà, moi, j'en ai, rien que sur la France, j'en ai relevé un peu plus de 700 croque-mitaines sur lesquels j'ai joué à l'archéologue, c'est-à-dire quelle était l'histoire, à quand on peut remonter, et est-ce que on peut retrouver de la vraie archéologie, c'est-à-dire des statues, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui partent de statues, de divinités qu'on a retrouvées, qu'on n'a pas su expliquer, etc. D'ailleurs, moi, sur l'archéologie de certains croque-mitaines, j'ai retrouvé, parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques dans certains endroits, j'ai retrouvé quelques éléments voilà, qui pourraient tendre, il ne faut jamais rien affirmer, qui pourraient tendre à faire un lien entre l'objet archéologique et le croque-mitaine qui arrive à la mi 19e siècle et qui ont des fonctions. Il y a des croque-mitaines de la pluie, des croque-mitaines des puits, des croque-mitaines de l'eau, des croque-mitaines de l'air, de protéger les enfants. On ne les appelle pas croque-mitaines, d'ailleurs, au 19e siècle, on les appelle épouvantails. Et c'est pour protéger les enfants, c'est pour leur faire peur et dire, attention, si tu sors quand il fait froid, le bonhomme l'a gelé, va te prendre. Si tu te penches près du puits, l'homme au croc va t'attraper et va t'amener dans le puits. Mais à chaque fois, ces personnages ne naissent pas de rien. Ils naissent du fait que dans le même lieu, dans le même canton, parfois dans le même village, on a un légendaire qui tourne autour d'une fée, d'un lutin, d'un truc, etc., qui porte ce nom et qui, avant de mourir, dernière épiphanie, va passer dans le domaine des croque-mitaines. Et c'est comme ça que finissent ces histoires. Et c'était joli en conclusion.
Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. On a juste voilà, parlé un peu du quoi, du pourquoi. Je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine peut-être pour parler du comment, parce qu'on l'a juste effleuré et c'est un sujet tellement vaste qu'on aura sans doute d'autres choses à vous faire dire. Je vous remercie.